Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Avec sa charpente, ses poutres de bois, il y a à terre du bric-à-brac. Parmi un vieux cheval à bascule en bois et un vieux jukebox. Des tas de vêtements, valises, papiers. Il y a même une armoire, etc., etc. Une fenêtre mansardée donne la lumière du jour. Frédéric, très faible, ne peut bouger. Il n'en a pas envie. Il veut rester toujours allongé comme ça. Il voit qu'il est dans un lit. Ou plutôt, un lit de fortune. Un matelas à terre et une couverture sur lui. Tout à coup, il se dit « Ma jambe !» Il se sent très faible pour se soulever trop faible, mais essaye de voir à travers la couverture. Il ne voit rien. N'ose pas toucher pour voir. Il a peur de l'avoir perdu. Et s'il ne l'a plus, il aimerait mieux c'est mourir. Oui, mourir plutôt que de vivre sans jambes. Il se voit sans jambes, à la merci de tous et de son frère, parce que lui le voudra malgré tout pour faire ce qu'il a à faire. Oh non! Que ça n'arrive pas. Alors, il lui manque aussi ça. Il aurait perdu la moitié de ce qu'il est. Parce que ça, ça lui donne des sensations, lui donne des informations que les autres ont. Et que lui n'aura plus, Comment savoir? Il n'ose pas toucher. Oh, surtout pas ça, non. Il boit du noir. Souffre moins. Tu te demandes qui l'a mené ici et pourquoi? Peut-être va-t-on lui faire des choses? Dans quel gibier de pied s'est-il mis? Et il se rendort. Et là, il ne rêve pas. C'est un bon sommeil tranquille. Il en a bien besoin. Il se réveille. À cause d'un bruit bizarre. Vois, au fond de la pièce, un homme, grand, mince, habillé d'une gabardine noire. Un pantalon noir, chemise noire blanche et des chaussures de montagne noires aussi. Il a des cheveux longs blonds, les très fins, dans les 25 ans, peut-être. Frédéric se souvient. Il lui semble l'avoir vu. L'homme voit qu'il est réveillé. Il s'approche de lui. Et lui dit, « Salut, t'as bien dormi ?» Frédéric lui dit, « Oui, je crois. » Il est faible et ne peut bouger. Il est dans la position d'un nouveau-né. Il a mal de partout aussi. Il demande au jeune homme, « Où suis-je ?» Le jeune homme lui dit, « Chez moi. » « Tu ne te souviens plus ?»« Non. » Le jeune homme lui dit, « Eh bien, je passais dans la rue et j'ai entendu des cris. » J'ai vu une tête sortir des égouts. Je me suis penché et je t'ai vu. Je t'ai vu que tu appelais au secours. Alors je t'ai tiré de là et mené ici. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les égouts au milieu de ces cannibales? Frédéric lui dit, « Un homme m'a mené là pour me faire manger. C'était horrible, je devrais pas être sauvage. Il voulait me manger. Alors, lorsque tu... es venu, ils étaient en train de le faire. » Le jeune homme lui dit, « Je le sais. » Frédéric demande, inquiet, « Et ma jambe ?» Le jeune homme lui répond, « J'ai fait ce que j'ai pu. » Frédéric se dit, « Je l'ai perdu. » Il lui demande, « Il ne reste rien ?» Le jeune homme lui dit, « Suffisamment pour pouvoir courir, sauter et danser. Tu n'as eu que des morsures assez profondes. Mais rien de plus. Je t'ai désinfecté avec de l'alcool et donné de la drogue. pour que tu ne souffres pas trop. Les cicatrices vont se faire d'elles-mêmes. Tu as eu de la chance. Elles ne sont pas infectées. Fidel, tu dis. Merci. Je ne croyais plus avoir de jambes. Non, elles sont bien là. Frédéric est soulagé. Il demande « Qui êtes-vous ? » Le jeune homme lui répond « On m'appelle Didier. J'ai pas de nom de famille. Je traîne de partout depuis très longtemps. » Frédéric lui demande « Pas de famille ? » « Non. Je ne crois pas. Pourtant, des fois, dans mes rêves, je vois un quartier populaire avec une femme qui est avec un homme très laid. Cet homme me fait peur. Ses mains sont terribles. Elle cherche toujours à m'avoir. La femme est toujours du côté de cet homme. Pourtant, il n'est pas mon père. Trop de rêves qui est très vrai, puissant. Un autre rêve aussi, où je suis dans un bel appartement avec un jeune homme très riche, très très riche. Il m'achète tout ce que je veux. Moi, je suis insupportable et je fais des caprices comme un gosse. Lui m'aime bien. Je rêve aussi encore une chose. Je suis dans une maison délabrée. On entend des cloches. Il fait nuit. J'ai avec moi un dossier. Une forme horrible, un vieux SDF. Viens me prendre, veut me prendre le dossier, me bat. Je suis à terre, apeuré, il m'étrangle et me donne un coup de ceinture de couteau. Puis des éclairs et le vide. Frédéric lui dit, trop de rêves, mais les rêves ne sont que des rêves. Didier lui dit, peut-être, mais rêver tout le temps de la même chose, ce n'est pas que des simples rêves. Il doit bien y avoir quelque chose. Et toi, qui es-tu ? Frédéric lui dit. Frédéric. Moi, j'aimerais, c'est ne plus avoir de famille. Je traîne. Malheureusement, j'ai perdu ma carte et je ne suis plus rien. Didier lui dit. Tu es comme nous tous, plus rien. Et pourquoi es-tu parti ? Frédéric lui dit. Mon frère m'ennuie, il veut que ce soit sa chose, Didier lui dit. Ils veulent tous dominer quelqu'un, moi non plus. Je veux appartenir à personne. Frédéric se sent pas bien. Pas bien. Et il se sent partir et perd connaissance. Noir. Une odeur chaude et agréable réveille et voit contre lui le visage de Didier avec un bol fumant à la main. Il lui dit « Bois, c'est chaud. C'est de l'eau chaude avec des pissenlits que j'ai trouvé dans une cour. Ça va te chauffer un peu. » Frédéric se cale. Didier l'aide à avaler, c'est chaud. Et la chaleur rentre dans son corps, ça lui fait du bien et le remonte. Ça fait du bien au corps. Après avoir bu, Didier lui demande, ça va mieux ? Oui, merci. Didier lui dit, je ne peux pas te donner autre chose pour le moment, je n'ai rien, même pas pour moi. Frédéric lui dit, c'est déjà bien, merci. Didier lui dit, repose-toi. Moi, je vais me débrouiller. Nous arriverons bien tous les deux à quelque chose. Dors un peu. Tu n'as pas froid ? Non, ça va. Didier lui dit, bien. Je vais sortir pour voir s'il n'y a rien à prendre pour manger et tâcher de trouver des vêtements. Parce que les tiens sont dans un état... Ne bouge pas, à cause des cicatrices. Didier se penche, le regarde bien et lui dit « Tu ressembles à un ange. Tu me rappelles quelqu'un ? Mais qui ?» Et il se retire. Didier l'entend quitter la pièce. Il est seul et se sent mieux. Il a toujours mal et prend patience. Il est heureux d'avoir toujours ses jambes. Il se dit quelle drôle d'aventure et rit pour la première fois depuis sa fugue. Mais est-ce une fugue ? Non, c'est un départ définitif. Il ne veut plus voir son frère. Il vivra comme ça, peut-être avec ce Didier qui semble être un brave garçon. La vie sera ainsi, d'aventure, dans un Paris en ruine et plein de gens troubles, cannibales ou autres. Peut-être sera-t-il chef de bande, héros d'aventure, genre les aventuriers de l'Arche perdue, ou sera-t-il simplement, et ce serait beaucoup, un espèce de Rimbaud chez les sauvages des villes, écrire ce qu'il ressent, et faisant comme expérience d'essence. Peut-être là, non, on verra. Il reste toute la journée au lit à rêvasser. Il n'a plus sommeil. Il y est revenu et a trouvé des pommes, un peu de pain, du chocolat en tablette. Il dit à Frédéric en lui montrant toutes ces choses. J'ai eu de la chance, j'ai aidé un épicier à ranger ses affaires. Et lui m'a proposé que je lui repeigne sa façade en échange de nourriture. Comme ça, pendant quelque temps, nous aurons à manger. Frédéric lui dit, merci, je ne sais comment te remercier. Didier lui dit, tu n'as pas à me remercier. Tu me tiens compagnie. Dans cette vie, on est le plus souvent seul. C'est pas facile de se faire des amis dans ce monde. C'est dur, tu sais. Et très souvent, la misère rend les gens fous, malades, dangereux. Ça me fait plaisir d'avoir un compagnon comme toi. Ça fait peut-être très très longtemps que j'ai pas eu de compagnon, d'ami. Et ils restent ensemble. Didier, la journée, va travailler chez son épicier. Il revient soigner son ami. Il lui change les bandages, lui remet de l'alcool. Il n'y a rien d'autre à mettre sur la plaie. Elle se cicatrise petit à petit. Mais l'alcool désinfecte et ralentit la cicatrisation. Frédéric a des douleurs supportables. Didier lui donne à manger ce qu'il a, ce qu'on lui a donné. Des fois, c'est presque rien, et d'autres fois, c'est la fête. Les sardines en conserve, c'est le délice. Pour ouvrir les conserves, on n'a pas d'ouvre-boîte. Il se sert d'un tournevis qui tape sur la boîte de conserve, avec un marteau. C'est long, ça gicle de partout. Mais une fois que la boîte est ouverte, c'est le délice. On mange en prenant à la main les sardines dans la boîte. Chacun à son tour. C'est délicieux. L'huile est bue, c'est un peu écœurant, mais ça donne soi-disant des vitamines. Les pommes aussi, c'est bon et ça se mange facilement. Lorsque Didier n'a pas de travail et qu'il reste au grenier, Il lit des BD. Il en a trouvé dans une balle du grenier. De vieux pilotes, Tintin, le petit Ranger, Black Lorock, etc. Frédéric lui aussi essaye de lire, mais il est trop fatigué. Ça l'endort très vite. Des fois, Didier joue de la guitare. Il ne sait pas très bien jouer. Ça fait rire Frédéric. Mais ça fait du bien d'entendre de la musique. Pour se chauffer, ce n'est pas facile. Le grenier est froid. Alors Didier fait une cloison avec du carton pour fermer le coin où Frédéric dort. Et le recouvre de pulls et de vêtements. Frédéric reste allongé dans ses couvertures, son linge. Il n'a pas trop froid. Et puis Didier, avec un petit réchaud à gaz, fait chauffer de l'eau qu'il prend à une fontaine dans une casserole en alu. L'eau chaude, bu, fait du bien. Didier a trouvé des vêtements de rechange pour Frédéric. Il a trouvé ça dans le grenier. Un vieux costume gris, une chemise blanche usée, des chaussures noires usées. Il lui dit, « Quand tu iras mieux, tu pourras t'habiller. Merci. » Frédéric se rétablit petit à petit, se sent mieux, et son aventure n'est plus qu'une aventure, une aventure à raconter, plus tard avec des accents de terreur pour faire peur aux amis. Sa nouvelle vie, qu'il a débutée avec son Nami, sa convalescence lui fait oublier ses jeux pervers, sa famille, tout ça c'est bien loin. Il est dans un autre monde qui est le contraire du sien. Il est passé de l'autre côté du miroir et ne cherche pas à repasser de son côté. Il aime bien Didier. C'est un garçon simple et gentil. Il aimerait toujours être avec lui. Les jours passent. Et un matin, Didier, en lui faisant ses pansements, lui dit « Ça m'a l'air d'être guéri. Il faut peut-être que tu essayes de marcher. Voir si tu n'es pas trop engolori. » Frédéric, qui est resté plusieurs jours au lit sans bouger, se sent en harmonie avec son lit, fixé au lit, et lui dit « Tu crois que je peux ?» Didier lui dit « Tu n'as... Peut-être, oui. Il faut essayer. Allez, essaye. » Frédéric se soulève difficilement. Ses jambes, ankylosées, ne le tiennent pas. Veulent rester plaqué au lit. Didier lui dit, « Attends, je vais t'aider. » Il se baisse. soulève la couverture, prend une jambe, la met sur le rebord du nid et reste à côté. Il se lève, le soulève pour le mettre debout sur ses jambes. Frédéric a chaud, il a peur, il tremble. Didier lui dit, je te tiens, tu ne crains rien. Il est complètement debout et maintenu. Mais il tombe sur ses jambes. Didier lui fait faire un pas, deux, trois. Les jambes ne le tiennent pas et ça lui, ne lui obéit pas. Didier lui dit, ça marchera. Tu es en Delorie. Massage tous les jours et essaye de marcher un peu. Allez. 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 Et plusieurs fois par jour, Didier masse les jambes de Frédéric pour lui redonner des forces. Il le masse avec du vin à bon marché. Frédéric sent le vin, ça le dégoûte. Et maintenu par Didier, il le fait marcher. Les jours passent. Ses jambes reprennent petit à petit des forces. Il n'a presque plus mal. Maintenant, il reste assis sur son lit, habillé. Pour qu'il ne prenne pas froid, Didier l'habille chaque matin. Il lui dit, tu es un vrai infirmier. Les jours passent. Didier est heureux d'avoir à s'occuper de quelqu'un. Frédéric est bien avec lui. Il ne voit plus la laide d'or où il est. C'est devenu son chez lui. Et ça lui est tout aussi précieux que ce qu'il avait, et même plus, parce que chaque chose est vitale. La moindre sensation, la moindre chose, comme le changement de lumière, lui est précieux, parce que ça lui change le décor où il est, et c'est son seul spectacle. Et puis, il a la surprise du repas. Que manger aujourd'hui? Et ce que l'on mange est précieux. Il ne faut pas y laisser la moindre miette. Ressentir ses jambes revenir, c'est aussi quelque chose de très précieux, de très fort. Tout dans sa nouvelle vie active ses sens. Frédéric s'est habitué à vivre enfermé. Il s'y sent bien, parce qu'en sécurité, le monde du dehors ne l'attire pas. Il ne pense même pas qu'un jour, sa vie va encore changer. Il goûte ces moments précieux sans souci. Le luxe a ses goûts, mais la pauvreté a les siens aussi. Le luxe a ses joies, la pauvreté puise les siens aussi. Didier lui dit un matin, tes jambes sont guéries, tu peux marcher normalement. Frédéric lui dit, merci, c'est grâce à toi. Didier lui dit, c'est pas tout à fait fini, il faut que tu sortes pour voir. Frédéric Parly. Sortir, pourquoi? Il est bien ici. Il lui dit.
Pourquoi? Je suis bien là.
Didier lui dit. Il faut que tu sois indépendant. Voir si tu es guéri. Frédéric lui demande. Pourquoi? Tu ne veux plus de moi? Didier lui répond. Bien sûr que si. Mais tu ne peux pas rester tout le jour enfermé ici.
Pourquoi pas?
Et la vie?
Ton avenir? Ta famille?
Frédéric lui dit. Moi? De ma famille, je m'en moque. Tu me suffis.
Didier lui dit. Merci. Mais il te faut aussi que tu te prennes en charge.
Frédéric lui dit. Je comprends. Tu veux que je vive par moi-même, que je ne peux pas éternellement être à tes crochets. Je ne suis qu'un égoïste. Pardonne-moi.
Didier lui dit. C'est un peu ça, et ce ne serait pas bien que tu vives au crochet des autres.
Frédéric lui dit. Oui, tu as raison. Je dois t'aider à subvenir pour nous deux. Je veux bien sortir pour voir si tout va bien. Mais tu resteras près de moi. J'ai un peu peur.
Didier lui dit. Je te le promets. Après déjeuner, nous sortirons.
Nous irons nous sortir un petit peu dans le quartier.
Et après déjeuner, Didier habillé bien chaudement il le chausse bien et le fait sortir du grenier.
Il le tient à la taille et Frédéric marche doucement. Ils descendent les escaliers d'un vieil immeuble, usé, sale, marche par marche. Frédéric est en sueur. Il n'a pas mal? Mais il se sent pas en sécurité sur ses jambes et a peur de tomber en avant dans les escaliers. Après un long parcours, ils sortent de l'immeuble. La lumière, le bruit de la ville, l'air frais donnent le vertige à Frédéric. Il n'ose pas avancer et voit que c'est une rue étroite et sale. Vieille rue, grise, sans âge. On se croirait revenir aux années 50, à Paris des années 50. Il y a quelques passants dans la rue, des pauvres, des êtres sales et maigres, des gosses en guenilles qui jouent avec l'eau des rigoles pour faire naviguer un bout de bois ou un bateau en papier. Frédéric a peur d'avancer.
Je suis ici chaque jour.
Didier lui dit. Ne fais pas de soucis. Je suis là. N'aie pas peur. Je te tiens.
Je suis heureux de ce hasard.
Allons.
Je reviens du palais.
Un pas. On va jusqu'au bout de la rue, là. Il y a un jardin public. On s'assoit sur un banc et après on s'en retourne. Allez, courage. Et Frédéric fait un pas. Puis deux,
Il voit un peu tout tourner, cette lumière.
Où tu vas?
Mais il continue, bravement. Il marche en regardant ses pieds. Il entend le bruit de la rue qui lui semble être le son d'un vieux film. Il a l'impression qu'il est toujours prêt à tomber, tremble sur ses jambes. Pourtant Didier le maintient bien pour éviter qu'il ne tombe. En passant, les regarde et se dit que le pauvre jeune homme a dû avoir un accident. Le parcours est long, il semble long. Il lui demande souvent, ça va, ça va. Nous allons bientôt arriver, c'est bien. Enfin, ils arrivent péniblement au bout de la rue. Là, ils se trouvent devant un square de quartier comme avant, fermé avec du grillage sur un muret, caché par des arbustes ou des haies. Il y a une porte, le portail pour y rentrer. Le square est le centre d'un petit carrefour de petites rues, de quartiers populaires, avec de vieilles maisons. Didier le fait rentrer dans le square. Il y a des pelouses délimitées par des barrières, un chemin de terre qui fait le tour du square, un WC public dans un coin caché par des haies et bien caché. C'est un lieu de turpitude pour la nuit. Une fontaine pour prendre de l'eau, des arbres, des bancs en bois vert. Au milieu du square, il y a une statue d'homme illustre en buste. Des enfants, des femmes passent, des hommes marchent. Ça donne un décor calme de douce France. Didier fait asseoir Frédéric sur un banc et s'assoit à côté de lui. Frédéric se dit, c'est bien, il se détend. Didier lui demande, ça va? Oui, merci. Frédéric regarde autour de lui, le décor, ses gens simples, ses enfants. Ça lui fait du bien. Il dit qu'il y a encore de la vie normale. Il se dit c'est bien ici. Didier lui dit, c'est mon quartier, enfin, si l'on veut, parce que je squatte. Et qu'à tout instant, il risque d'être démoli à jamais et transformé en truc moderne. C'est le Maryland qui commençait à vouloir une ville comme il la voulait. Il voulait un Paris comme une cité, sans petit quartier populaire ou autre, mais une immense cité avec un centre commercial. Il ne voulait plus que Paris soit divisé en plusieurs petits villages, quartiers, avec chacun son caractère. C'est ce que donne à cette ville son charme. Puis il y a eu le groupe Franblanc, qui a reçu les clés des grandes villes du monde, à rénover et en faire des trucs bien luxueux. Pour faire ce nouveau Paris, il faut démolir et reconstruire des immeubles de verre. À tout instant, ils peuvent débarquer ici et nous expulser pour tout casser. Frédéric lui dit, il ne le fera pas, je ne le veux pas. Didier lui dit, moi non plus, mais on ne peut rien contre le groupe Franblanc. Frédéric se dit, si, il y a quelqu'un, j'en parlerai à mon grand-père. Puis, il s'en retourne. Le retour est pénible. C'est pénible de monter les escaliers, c'est plus pénible que de les descendre. Une fois dans la chambre, Frédéric s'est allongé. Didier lui a préparé un goûter de chocolat et lui dit « Pour la première fois, c'était très bien. Nous recommencerons demain. » Et ils vont tous les jours faire un tour. Frédéric s'habitue, il n'a plus peur et se renforce. Au fil des jours, Didier le lâche. Il marche seul, aboitant un peu, mais de mieux en mieux. Les jours passent. Frédéric se sent de mieux en mieux. Et un jour, il marche en sautillant et dit à Didier, « Je suis guéri !» Didier lui dit, « Je le sais. Et que veux-tu faire ?»«
Je sais pas. J'aimerais t'aider. »
Didier lui dit, « Tu es encore bien bas. Il faut que je sois encore près de toi. Tu vas m'aider à peindre la façade de mon magasin. Ça te va ?
Oui.
Et Frédéric travaille avec Didier. L'aide à peindre la façade de l'épicier. Il ne sait pas travailler, mais Didier lui dit ce qu'il faut faire. Le travail n'est pas pénible, et ils sont ensemble. L'épicier est un gros homme chantin, jovial. Ils les aiment bien. Il leur donne le plus qu'il peut. Les affaires ne vont pas bien. Il prend peu, mais cela suffit pour les deux amis. Après la façade de l'épicier, le pharmacien qui les a vus travailler leur donne aussi à faire sa façade. C'est ce qu'ils font. Ils arrivent à avoir du travail à manger à peu près tous les jours. Ils mènent une vie tranquille et calme. Les jours passent. Didier couche sur un matelas à côté de celui de Frédéric. Et souvent, Frédéric est réveillé par des cris que pousse Didier. Il se dit, encore des cauchemars? Le matin, il lui demande, tu rêves toujours à la même chose? Didier lui dit, oui, hélas, toujours les mêmes rêves. Frédéric lui dit, si tu fais toujours les mêmes rêves, c'est certainement que c'est dû à ta vie. À la vie que tu as vécue. Il faut faire une recherche. Didier lui demande comment. Frédéric lui dit, peut-être que quelque chose doit te mettre sur les rails, un objet, un paysage, un visage, ou autre chose. Didier lui dit, il y a tout ça et rien. C'est flou. Frédéric lui demande, et qu'est-ce que tu vois le mieux? Didier réfléchit et lui dit, peut-être une rue populaire, et je crois que dans mon rêve, je dis Montparnasse. Frédéric lui dit, il faut aller dans ce quartier et voir. Peut-être que tu reconnaîtras quelque chose. Didier lui dit, c'est un peu confus. Didier lui dit, nous verrons bien. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.